Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charline.
Salut Alex. Bah, à quoi tu penses là?
À la retraite.
Ah bon?
Bah maintenant qu'on est numéro un, il faut y penser. Hein.
Ouais, c'est vrai, enfin bon.
Ouais, il paraît que le plus dur, c'est l'après, quoi. Oui, c'est ce que dit notre invité dans son livre, Marion Bartoli, l'ancienne championne de tennis.
Ah, faut dire que c'est pas facile quand on a côtoyé les sommets.
Elle a été dans le top 10 mondial.
Elle a gagné Wimbledon en 2013.
Ah, mais nous, Charline, maintenant qu'on a côtoyé les sommets, qu'est-ce qu'on fait?
Ah, ça, je sais pas, Alex. Hein.
Oh, t'imagines, on sera dans notre maison en Toscane et on reparlera du bon vieux temps et.
Alexandre, tu te souviens à l'époque, on était précurseurs.
Oh que oui, on avait révolutionné le divertissement à la radio.
Je dirais même la satire.
On avait même battu RTL, c'est notre grand chelem à nous.
Malgré les brèves.
Et malgré tes invités sociologues inconnus au bataillon, ça donnait.
Enfin, si on est vraiment honnête, c'est plutôt moi qui tenais la boutique.
Oh, on était censé solliciter, Bolloré avait voulu travailler avec nous.
Oui, enfin, surtout toi.
Bah, il fallait bien la payer, cette vie-là.
Oui, mais c'était beau de travailler pour le service public.
Oh, c'était avant que Macron privatise Radio France.
Oh, vendant à Cyril Hanouna.
Oh, et puis un jour, on a reçu Marion Bartoli.
Et on a parlé de la retraite.
On a parlé de la retraite, et après l'émission, on a pris un billet d'avion en Florence.
Et puis, on n'est jamais revenu. Alex ?
Oui,
mais ça va, mais à quoi tu penses, là-haut,
non, boulot ? Non, je divaguais, je pensais à autre chose.
Oui, tu divagueras pendant ta retraite. Bah, t'en es encore bien loin, je te signale. Hein.
Bien loin.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Start-up émission, cet espace où la blague chante comme Ariel Dombal pour bien faire chier l'actualité. L'âge légal de la retraite, c'est un débat interminable dont on ne verra pas le bout avant la fin de nos jours. Et aujourd'hui, le MEDEF propose de repousser l'acquis à 64 ans.
La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant.
Eh oui. La saison des tournois de tennis européens vient de démarrer et cette fois, c'est rare, impossible de dire qui va prendre le pouvoir. Chez les hommes comme chez les femmes, toutes les cartes sont aussi rebattues que la terre.
Hé, si tu veux ramasser des balles, tu peux toujours aller à Roland-Garros, hein, je connais bien le big boss là-bas.
Polémique aux États-Unis à cause du port du legging à la messe. Parce que c'est moulant et que pour les hommes, il devient difficile d'ignorer le corps des femmes en legging. Seulement, voilà, c'est hyper confort et n'en déplaise à Dieu, c'est même très fashion.
Mais tout me va, en fait, c'est fou.
Lui aussi, il se dit ça.
C'est fashion, oui.
Il porte un peu de tout, c'est Alex Vizorek.
Et oui, une belle équipe aujourd'hui autour de la table avec la gonzesse. Attention. À 17h20, celle qui intellectuellement monte se matcher au filet là où nous restons au fond de cour à lui renvoyer notre bêtise, c'est Isabelle Sorrente, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui d'une mise à jour sur mon téléphone.
Parlez-nous de votre quotidien. Oui. À 17h30, celle qui a un gros point commun avec les tennisman français, elle habite en Suisse, c'est Christine Gonzalez.
C'est horrible.
C'est pas faux.
C'est horrible. Ça va bien, vous êtes de l'autre côté de la table, parce que sinon je me levais.
On va déjà perdre l'invité.
Ce que vous semblez oublier, c'est qu'aujourd'hui, vous riez beaucoup trop parce que c'est vendredi saint.
Oui, je sais.
Un vendredi saint un peu tenu. À cette occasion, je vais tenter de joindre le Christ.
Pour l'instant, toutes nos lignes sont occupées. Veuillez rappeler dans une demi-heure.
Alors on réessaye dans une demi-heure.
Oui, voilà, c'est sûr. À 17h40, celle-ci, elle était petite avec une coupe au bol et qu'elle jouait bien au tennis, on l'appellerait Juliette Arnaud-Botch, mais c'est pas le cas. Bonjour Juliette Arnaud. C'est quoi lui dire, celle-là?
Tout à fait. Alors, comme c'est vendredi saint, je savais même pas. Eh bien, merci Christine, j'ai choisi ce livre dont vous allez lire le titre, Alex.
Whiskey.
Voilà.
Et enfin, 17h55, il viendra chanter celui qui est bâti comme le manche de la toute première raquette de Björn Borg, le long et mince Frédéric Frobe.
Et voici celle qui va renvoyer l'actu en fond de cour. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Marion Bartoli.
Oui,
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Marion Bartoli.
Merci Charline, je suis très heureuse d'être là.
Nous aussi, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous publiez un livre qui s'intitule Renaître, écrit avec Géraldine Maillet et qui est paru chez Flammarion. Je vous laisse Alex Vizorek, qui avait lu le livre, parler avec Marion Bartoli.
J'aime bien les biographies sportives, tout ça, je trouve ça chouette, moi qui n'ai jamais rien gagné. Et d'ailleurs, vous êtes un cas rare dans le tennis français, puisque vous avez gagné des titres. Et donc ça, c'était déjà important. Est-ce que que c'est vraiment cette chose-là que vous vouliez transmettre aux jeunes qui aujourd'hui prennent une raquette et une balle.
Je vais essayer. C'est peut-être mon côté corse qui ressort pour avoir gagné. Mais non, effectivement, ça a été une grande victoire pour mon pays aussi et pas uniquement pour moi.
Après, mais l'ensemble de votre carrière, parce qu'on parle de Wimbledon, c'est vrai que le Grand Chelem, c'est assez...
C'est celui qui reste. Les autres, honnêtement, on s'en souvient pas beaucoup. Mais je me souviens aussi de ma défaite en finale de Wimbledon 2007, après avoir battu Justine Hénin, numéro 1 mondial, et je perds en finale. Ça avait été un grand drame. Ouais. Et j'ai désiré faire cette autobiographie pour plusieurs raisons. La première, tout d'abord, raconter vraiment l'histoire avec mon papa et tout ce qu'il a fait pour moi, les sacrifices de ma famille pour arriver à ce que j'essaye finalement de conquérir ce titre à Wimbledon et réaliser mon rêve d'enfant. Et puis aussi les déboires qui me sont arrivés après ma carrière tennistique et en particulier ma relation avec mon ex-compagnon qui a été catastrophique pour moi. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce livre.
On a été inquiet pour vous. On a vu des photos, on était inquiet pour vous à l'époque.
Ah oui, effectivement, oui.
Les gens ne vous voient pas parce que vous êtes à la radio, mais vous allez beaucoup mieux, vous êtes en forme.
Là, ça n'a plus rien à voir.
Très bien.
Mais effectivement, ça a été une période très douloureuse de ma vie, assez dramatique, mais ça fait aussi partie de la vie et j'ai désiré l'exprimer avec le plus de sincérité possible sans galvauder la réalité et le raconter voilà, tel que je l'ai vécu, avec toutes les difficultés, tous mes problèmes, toutes les éléments de ma vie qui ont été parfois très noirs.
Renaître, c'est donc c'est cette double renaissance, c'est-à-dire
oui,
après la carrière sportive, que vous dites longtemps, vous avez cru que vous alliez pouvoir revenir, et puis à un moment, vous êtes fait à l'idée que non. Et puis cette histoire, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais je voudrais évidemment, le livre commence sur Wimbledon, 6 juillet 2013, oui. 5h15, 40-0 pour vous, il n'y a plus qu'un point, et vous dites, voilà, mon père m'avait dit qu'à un moment, il y avait ce jeu de service qui allait changer votre vie. Mm-hmm. Vous le regardez, il est dans le public. Et là, ce moment pour tous ces sacrifices. Parce que c'est ça que vous dites, c'est que papa, je l'ai fait, putain, je l'ai fait. Mais à quelque part, on a parfois l'impression que c'est pour lui que vous l'avez fait.
Ça a été pour beaucoup de personnes, mais absolument. Mais je pense que d'avoir une famille qui a autant sacrifié de choses pour moi.
Votre père a quitté son travail.
Absolument, ma maman.
Médecin,
totalement de campagne. Ma maman m'a vu partir, a vu son mari partir parce qu'on était sur les tournois et sur le circuit, en particulier chez les juniors, toute l'année. Donc, elle ne me voyait plus à la maison, elle voyait plus son mari non plus. Donc, chacun avait un petit peu son fardeau et ses difficultés à porter. Moi, c'était la pression familiale parce que je pensais pas à l'échec et l'échec était inenvisageable pour moi. Je me devais de réussir et surtout, je devais ne pas décevoir ma famille. Donc effectivement, cette victoire finale a été le projet de toute une vie, à la fois bien évidemment le mien, mais aussi par l'implication de mes parents, le projet de mes parents et du reste de ma famille. Et ça a été un petit peu mon cadeau et le cadeau que je désirais leur offrir. Et quand je vois mon papa aujourd'hui, la fierté qu'il a à dire sa petite fille a gagné Wimbledon, voilà, ça reste des moments extrêmement particuliers.
Il y a dans le tennis peut-être en particulier justement cette relation dans le tennis féminin. Les sœurs Williams, c'est leur père qui les a sorties. Ouais. Vous, il y a d'autres
Sharapova.
Exemples. Sharapova. Je suis grave peut-être.
Je sais.
Un excellent coup droit. Et vous dites.
Lady Gaga.
Du coup, après ça, vous dites j'espère que mes enfants ne voudront pas faire de tennis.
Du tennis de haut niveau, en
ah,
tout
oui,
cas.
Bah oui,
du
oui.
tennis, oui, c'est bien sûr. J'espère qu'ils en feront, surtout si j'ai la chance d'avoir une fille. Je la mettrai au tennis, je l'habillerai bien, je lui ferai des petites couettes et tout. Mais tennis de haut niveau, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est énormément de sacrifices. Il faut vraiment que ça soit son projet, son rêve. Parce que si c'est juste comme ça pour s'amuser, honnêtement, c'est trop difficile, comme tout sport de haut niveau d'ailleurs, même aussi la danse classique, la musique au plus haut niveau, ce sont les mêmes points communs, c'est vous devez sacrifier votre vie pour votre réussite et ça il faut vraiment que ce soit le projet de l'enfant pour y arriver parce que sinon c'est trop dur.
Si vous aviez su la difficulté, vous seriez lancé dans cette aventure-là ?
Je le referai 150 000 fois parce que le bonheur absolu de remporter un tournoi du Grand Chelem, ça reste un moment extrêmement à part. Et en particulier Wimbledon, avec toute la tradition, c'est quand même si je suis française, indéniablement le plus grand tournoi du monde.
Bien sûr.
J'aurais adoré remporter Roland Garros, bien évidemment. Mais lorsque vous voyez votre nom écrit en lettres d'or gravé.
Le berceau du tennis.
Exactement, gravé sur le trophée. Et vous savez que dans 20, 30, 40, 50 ans, votre nom sera toujours là. C'est un moment extrêmement spécial.
J'ai une question très naïve à vous poser. Mais quand on arrive au niveau où vous avez été remporté Wimbledon, beaucoup de choses passent dans la tête. Vous êtes vraiment une battante, une gagnante. Vous avez un mental de fer.
J'ai essayé.
Ouais, j'imagine. Quand vous êtes confronté au revers de la vie, etc., à des très grosses difficultés, ce que vous avez appris de votre mental, etc., est-ce que ça vous a servi ou justement, une fois qu'on sort du sport et du challenge, dans la vie, on lâche prise et on n'arrive pas à avoir ce mental ou...
C'est une question extrêmement intéressante. En fait, j'étais dans une dualité importante, c'est-à-dire que pour moi, j'étais totalement novice dans des relations amoureuses. Je n'en ai jamais eu. J'étais totalement concentrée pendant toute ma carrière uniquement sur ma réussite tennistique. Et en fait, je ne savais pas ce qui était tolérable de ce qui était intolérable. Je n'avais pas le mode d'emploi. Et tous les revers que peuvent connaître d'autres adolescents, voilà, avec des petites amours de jeunesse où vous faites des erreurs. Et puis,
tout cet apprentissage.
Voilà, je ne l'ai pas eu du tout.
Vous l'avez eu d'un coup, quoi.
Exactement. Et en fait, je me suis laissée happer par cette personne qui, petit à petit, m'a détruite pour arriver à la fin à plus rien, mais c'était graduel, c'était insidieux et c'était permanent chaque jour un tout petit peu plus. Et c'est là où j'ai pas su dès le départ mettre des barrières pour dire non, mais non, là c'est stop. Mm-hmm. Et c'est où ça, ou soit on s'arrête, mais on continue pas ainsi. Et en revanche, mon mental, je me mettais en place pour ma carrière extra-sportive. Donc en fait, j'étais en permanence sur la réussite professionnelle extra-sportive une fois ma carrière tennistique était terminée. Et pour moi, par contre, dans la relation amoureuse, je ne mettais pas du tout en place ce mental-là parce que je ne savais pas si c'était acceptable pour moi de râler ou de pas râler ou de dire quelque chose ou de rien dire. Et en fait, j'avais tout simplement pas le mode d'emploi. Et je me suis retrouvée effectivement avec quelqu'un qui ne voulait en aucun cas mon bonheur. C'est-à-dire que vous vivez au quotidien avec une personne qui ne pense qu'à une seule chose, c'est à vous détruire. Et il y est arrivé, malgré quand même effectivement la structure de personnalité que je pense avoir un petit peu solide, ou en tout cas assez solide. Malgré ça, effectivement, j'ai été totalement détruite. Donc, c'est aussi pour montrer à d'autres femmes qui vivent la même chose que c'est pas à cause d'elles. Vraiment.
Il faut savoir dire stop.
Exactement. C'est à cause de la personne qui vit avec vous. Parce que lorsque vous vivez avec une personne qui est pervers narcissique, qui vous explique que c'est de votre faute, c'est en permanence de votre faute. Donc, en plus, c'est extrêmement culpabilisant. Et donc, ça prend énormément de temps pour se reconstruire.
Et là, on n'a pas de coach pour.
Exactement. J'avais pas papa pour me dire, je fais comment, en fait, là? Et absolument. Alors, je décris des scènes qui sont absolument horribles dans le livre. J'ai pas tout décrit non plus. Mm-hmm. Mais je pense que ce que j'ai décrit, c'est suffisant pour arriver à avoir une image de ce que pouvait représenter mon quotidien. Et c'est juste effectivement assez horrible à vivre.
Marion Bartoli écrit donc Renaître, paru chez Flammarion, et puis on va vous retrouver bien sûr sur Eurosport, qui a les droits du circuit ATP, donc qui diffuse énormément de tournois. Et vous commentez aussi en anglais, par exemple sur la BBC. Vous travaillez pour 5 chaînes différentes. Ouais. Donc on peut suivre
ça va bosser.
Tournois, bien sûr, avec Marion Bartoli, notre invitée. On va parler de plein de choses avec vous, d'actualité. On va revenir au livre aussi, évidemment, à votre carrière au tennis, quoi.
J'avoue, j'en ai bavé pas pour love avant d'avoir eu vent de vos love. À votre avis, qu'avons-nous vu love? Love.
un remake. That's a remake of La Javanaise. Mario Bartoli. Oui,
c'est The Javanaise.
Marion Bartoli est avec nous. J'essaie de faire un petit effort d'anglais, quoi.
Non, pas du tout.
Bon, voilà. Alors, 17h22 sur France Inter. C'est donc Marion Bartoli qui nous accompagne à l'heure où la saison du tennis en Europe vient de démarrer. Hein, ça fait une semaine. Alex Vizorek pour entourer Marion.
Eh bien, sachez que par ordre d'apparition, nous avons Isabelle Sorrent, nous avons Christine Gonzalez, nous avons Juliette Arnaud et il viendra chanter, et sans doute sur une thématique ou sur laquelle on l'attend un petit peu, Frédéric vous promet.
Ah oui, c'est passé des trucs.
C'est pas possible, ça parle cathédrale. Mais j'en sais rien.
Allez, allons-y.
Benalla, je pense qu'il a beaucoup menti quand même. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter les bêtises.
Le journal de presque 17h17.
Et on commence par les titres.
Demain, samedi, les manifestations seront interdites sur les Champs-Élysées ainsi qu'autour de Notre-Dame de Paris.
Enfin, pour les champs, je comprends, il faut éviter les dégradations. Mais bon, Notre-Dame de Paris, craint plus grand-chose.
Un homme a été arrêté avec des bidons d'essence juste devant la cathédrale de New York.
Et pour une fois, c'est un Américain qui plagie un Français et pas l'inverse. Bien, ouais.
Et Marion Bartoli, elle connaît l'émission, elle attend les brèves.
Elle attend les brèves, ça c'est sûr. Et moi, j'ai copié sur personne pour les brèves et personne ne copiera les miennes, à mon avis, je pense.
Une fois n'est pas coutume, voilà. Commençons par un anniversaire.
Et c'est officiellement l'anniversaire de Gad Elmaleh aujourd'hui.
Mais pourquoi est-ce que vous dites officiellement ?
Parce que si vous lui demandez, il vous dira que c'est le 29 avril, comme Jerry Seinfeld.
Oui. Passons à Notre-Dame, mais sachez que l'entreprise qui était en charge de la rénovation avait déjà été impliquée dans un récent départ de feu.
Oui, c'est peut-être la même entreprise qui s'était chargée des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, qui elles aussi sont parties en fumée assez rapidement.
Passons aux gilets jaunes, car le préfet de police de Paris a dit craindre le pire pour ce samedi.
C'est faux, le pire c'était hier et on l'a vécu avec cette vidéo d'Ariel Dombal postée en hommage à Notre-Dame.
Bah oui.
Si c'était le pire. C'est le pire.
Ouais. Oui. Non mais c'est bon. Ça fait deux fois. Plus, là, c'est la double peine, Alexandre.
C'est comme beaucoup d'émotions. Notons que voilà, si les gilets jaunes crament le Louvre, la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur, eh bien Bernard Arnault et François Pinault ressortiront leur carnet de chèques et ce sera très bien.
Politique toujours en 2014, Benoît Hamon a délivré un badge d'accès à l'Assemblée nationale à Alexandre Benalla, croyant que celui-ci faisait partie du service d'ordre du PS.
Réponse de l'intéressé.
Moi, je pense que comme tout le monde, j'ai été enfumé.
Comme tout le monde. Heureusement que Benoît Hamon n'est pas devenu président de la République, parce qu'alors qu'il est, Benalla aurait les codes de l'arme atomique.
Et le pire, c'est qu'à l'époque, Benalla ne travaillait déjà plus pour le Parti Socialiste.
Et oui, si un jour France 2 cherche quelqu'un pour remplacer Passepartout à Fort Boyard, Benalla, c'est le bonhomme.
International, beaucoup plus dramatique, où là, au Bangladesh, une jeune fille a été brûlée vive pour avoir dénoncé une agression sexuelle.
Et là, bizarrement, on n'a pas entendu Bernard Arnault proposer de faire un virement de 200 millions d'euros à la famille.
En Sibérie, des chercheurs russes découvrent du sang liquide et de l'urine dans le fossile d'un poulain préhistorique vieux de 42 000 ans.
Ça, comme si c'est impressionnant, excusez-moi, mais en Algérie, il y a des médecins qui ont découvert du sang liquide et de l'urine dans Abdelaziz Bouteflika.
Aux États-Unis, la FDA, la Food and Drugs Administration.
Comment elle est moqueuse,
je me fais clasher par Marie. Aux États-Unis, la Food and Drugs Administration vient d'approuver une pilule mince qui trompe l'estomac et lui fait croire qu'il est rempli.
Et oui, et je crois que Donald Trump a avalé une pilule du même type pour la tête. Il croit qu'il est rempli, en fait, il n'y a rien dedans.
En France, sécurité routière, l'étude annuelle de Vinci Autoroute a révélé que c'est en Île-de-France que vous risquez le plus de vous faire klaxonner et injurier par d'autres conducteurs.
Un risque multiplié par 1000 si votre prénom c'est Anne et votre nom Hidalgo.
Santé, selon une autre étude, un Français sur deux a déjà fumé du cannabis.
Et étonnamment, c'est le même Français sur deux qui comprend les chroniques d'André Manoukian.
Et des brèves,
Adidas invente la première basket 100% recyclable. Et c'est bien parce que pour l'instant, le seul moyen d'avoir des baskets recyclables, c'était d'enfiler les boîtes.
Ouais, oui, c'est vrai. La dernière.
Et la dernière, ouverture en France du premier centre d'entraînement sportif dédié au e-sport. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que les e-sporteurs français seront parfaitement formés au e-défaite. Et ça, c'est déjà pas mal.
Alex, demain, vous serez à côté de Valenciennes.
Je serai à Douchy-les-Mines.
Ouais, c'est là que vous jouez votre spectacle.
Ça. Viendez dans le Nord.
À 17h27 à Douchy-les-Mines. Marion Bartoli est avec nous. On a parlé cannabis. On va parler tennis également pendant cette heure. Mais avant cela, la retraite. Je sais pas, vendredi, je suis au taquet le vendredi, un truc de fou.
Elle monte au filet.
Là, dites donc. Alors, le président du MEDEF propose de relever l'âge de la retraite à 64 ans afin de financer la prise en charge des personnes âgées. Repousser l'âge légal de 2 ans. Il a décidé de bien foutre la merde, celui-là. Alors que la solution nous paraît évidente.
Avec l'allongement de l'espérance de vie, les gens passent en moyenne 30 ans à la retraite. Mais à quoi ça sert tout ce temps libre, si on ne peut plus rien faire, soit à cause de la maladie, soit à cause de la fatigue?
Voilà pourquoi notre président a pris la décision radicale d'inverser complètement le système des retraites. Désormais, les jeunes de 20 ans prendront leur retraite pendant 30 ans pour pouvoir bien en profiter, puis iront ensuite travailler jusqu'à leur mort. Une loi qui a trouvé immédiatement un écho favorable dans la société.
Cette réforme, c'est que du bon sens. Puis c'est pas 80 ans que je vais faire du parapente. Puis en plus, ça va régler le problème du chômage des jeunes.
C'est Groland.
C'est pas con.
Oui, c'est une bonne solution. Mario Bartoli, oui. Quel regard peut porter une sportive sur ce bras de fer sans arrêt entre le gouvernement et le MEDEF qui veut allonger l'âge de la retraite et puis les travailleurs qui descendent dans la rue, qui râlent et disent « Mais non, on a travaillé jusqu'à 60 ans, là c'est 62 ans l'âge légal de la retraite, ça va un moment. Vous qui êtes sportive et donc où l'âge de la retraite est beaucoup plus précoce, bien sûr. » Comment vous regardez tout ça, vous ?
Mais nous, en fait, c'est une retraite sportive, mais c'est pas une retraite de vie. On le voit encore dans les activités que j'ai aujourd'hui. Mais effectivement, souvent, pour le grand public, lorsqu'on prend une retraite sportive, on arrête de travailler, en fait, on fait plus rien. Ce qui est quasiment pour personne le cas, on continue tous à faire quelque chose, d'abord parce qu'on est tous des hyperactifs, de toute façon, donc s'arrêter du jour au lendemain, c'est totalement impossible. Mmh. Et donc, on occupe notre temps et on occupe nos activités. Après,
mais c'est plus une reconversion. En
exactement.
Réalité.
On dit retraite sportive, mais de toute façon, on en a un besoin parce qu'il y a un tel vide lorsque vous êtes plus sur des cours centraux, en train d'être applaudi, en train de recevoir des coupes, etc. Vous devez bien le combler par autre chose. Donc, il faut arriver simplement à retrouver une autre passion, en tout cas un travail qui n'est pas non plus juste pour un travail.
Mais donc, vous êtes concerné par l'âge de la retraite.
Oui, puis de toute façon, je suis concernée par mon pays et je suis concernée par effectivement les difficultés que les gens peuvent avoir et je les comprends parfaitement. Après, le problème, c'est que j'ai pas les connaissances économiques pour être capable réellement d'analyser ce qui est viable pour le pays. Non, mais je pense que c'est ce qui serait intéressant au-delà d'effectivement, bien évidemment, que pour tous les gens qui ont des travaux extrêmement pénibles, on souffre pour eux et qu'on comprend totalement qu'ils n'aient pas envie de travailler 2 ans supplémentaires. C'est simplement du bon sens. Mais je pense que au-delà de ça, il faut quand même avoir une vision pour le pays et qu'on peut pas simplement réagir sur un cas individuel. Et c'est là toute la difficulté d'être président de la République, c'est vous devez ne pas vous. Bien évidemment, le cas individuel est dramatique, mais vous devez prendre en compte le cas de la nation et du pays entier, et ce qui est bon pour le pays. Et je pense qu'on a déjà une dette absolument abyssale, et qu'effectivement, il faudrait expliquer un peu mieux, à mon avis, aux Français, quelles sont les raisons de ces choix, pourquoi on les fait, et quelles seront en revanche les implications pour le pays si on ne les faisait pas. Et je pense qu'un effort collectif ne peut être demandé que s'il y a des explications extrêmement claires, parce que tout le monde a un sens du pays, un sens de la nation, on n'a pas envie de laisser un pays à nos enfants totalement en ruine avec des dettes qu'on n'est plus capable de combler.
On a reçu beaucoup de sous pour la cathédrale, hein, donc ça a déchiré.
Oui,
mais
ce qui serait intéressant sur la cathédrale, c'est de voir les dons français, les dons étrangers.
C'est
encore autre chose. Mais bien évidemment que des sommes données aussi rapidement par des grandes fortunes françaises, le sens commun, c'est de se dire pourquoi ils font pas la même chose pour aider d'autres personnes qui sont dans la rue. Notre-Dame, ça reste entre guillemets que des pierres, etc. Bon, après, on peut pas imposer à des gens de donner, ça reste leur argent, ils en font ce qu'on en veut,
ils en font ce qu'ils en veulent.
Non, mais voyez, donc on peut pas faire des procès d'intention à tout le monde.
Vous parlez de la pénibilité. Votre métier de sportive a été pénible au point que quand vous avez voulu le reprendre, votre corps n'a plus de cul. Donc ça aussi, ça doit vous donner un regard sur justement la pénibilité de certains travaux.
Oui, absolument. Bon, après, dans le sport, on a quand même énormément de satisfaction. Il y a évidemment des moments beaucoup plus difficiles, mais quand un ouvrier fait les 3-8 à l'usine, il n'y a pas 15 000 personnes qui viennent l'applaudir tous les jours. Donc, je pense qu'il faut quand même relativiser notre difficulté. Elle existe de façon certaine. Après, effectivement, c'est plus compliqué d'être sportif de très très haut niveau, le pourcentage est tellement réduit, la pyramide, c'est le tout en haut, c'est tellement peu de gens et peu d'élus pour le reste de la base qui est vraiment totalement anonyme, parce qu'aujourd'hui quand vous êtes un joueur de tennis qui est 80e mondial ou 60e mondial, personne ne vous connaît, et ça reste quand même le 60e joueur mondial au monde, ce qui est déjà très bien, donc c'est aussi très peu d'élus et très peu de personnes qui sont dans la lumière, mais moi j'ai un respect énorme pour les personnes qui se lèvent tous les jours, qui vont travailler à 6h du matin,
qui méritent une retraite, qui profitent un peu de
la vie. Alors, si de 64 ans, non, c'est pas possible. Non, ça,
on va plaider là-dessus.
Ouais, mais voilà. Allez, Isabelle Sorrent est avec nous.
Oui, alors Charline, il y a une dizaine de jours, mon téléphone, ou plutôt cet objet intelligent qui par ailleurs passe aussi des appels, mon téléphone intelligent, donc s'est mis à jour. Et il s'est mis à jour pendant la nuit, pendant que je dormais. Et le lendemain, en rallumant le téléphone intelligent, ça a été le choc des couleurs, donc orange vif, rouge atomique, jaune canari, bleu tsunami, des icônes toujours plus simples, toujours plus rondes, avec moins de lignes et de détails, parce que les lignes et les détails, Alex, l'utilisateur pourrait ne pas les comprendre. Ça pourrait ralentir hein, l'utilisation. Alors, en plus de ces icônes simplifiées et fluorescentes, le quota de mots a été réduit lui aussi, parce que les mots, c'est comme les lignes et les détails, ça pourrait perturber l'utilisateur, ça pourrait même, pire encore, faire qu'il lâche son téléphone. Avant la mise à jour, j'avais intitulé l'alarme que je fais sonner le matin. Oui, je vais vous parler un peu de moi. La vie est un voyage magnifique. Alors, je sais, tout le monde peut ne pas être d'accord avec cette phrase. La vie est un voyage magnifique. Mais j'avais fait ça dans un élan d'optimisme et j'aimais bien l'idée de voir cette phrase s'afficher le matin. La vie est un voyage magnifique. Alors, que les pessimistes se rassurent, c'est terminé parce que le nombre maximum de caractères est dépassé. Mon téléphone, dans son intelligence et sa sagesse, ne parle pas de mots. D'ailleurs, il a une vision atomiste du langage. Mon téléphone parle de caractères. Il m'informe que la vie est un voyage magnifique est une phrase qui dépasse 20 caractères. Donc mon alarme s'intitule désormais « La vie est un voyage ». Alors, c'est vrai aussi. La vie est un voyage, c'est vrai aussi. Si quelqu'un m'avait forcé à tronquer ma phrase, quelqu'un en chair et en os, hein, je me serais énervée. J'aurais parlé de censure, j'aurais dit à la personne « vous altérez ma pensée, vous tentez de m'imposer votre vision aseptisée du monde ». Mais si c'est un téléphone qui fait la même chose, nous parlerons simplement de mise à jour, même si ça se passe la nuit, pendant que vous dormez. Mais la chose la plus inquiétante dans cette mise à jour, ce sont les énormes pastilles multicolores qui ont remplacé le nom de mes interlocuteurs. Là où la veille encore s'affichaient des noms et des prénoms quand quelqu'un m'appelait, ce sont désormais des gros disques jaunes et rouges ou verts et violets qui occupent le tiers de l'écran chaque fois que j'appelle quelqu'un dont le nom s'affiche désormais en caractère discret sous le gros disque aux couleurs atroces. Alors j'avoue que j'ai trouvé ça tellement moche que j'ai mis quelques heures avant de comprendre la motivation des concepteurs. Et finalement, c'est assez simple, Charline. Le disque aux couleurs atroces vous rappelle qu'une photo de votre contact serait plus agréable à regarder. Une photo, c'est mieux qu'un nom. Et une photo associée à un nom, c'est encore mieux parce que c'est une donnée. Le disque aux couleurs atroces est une incitation criarde, mais pourtant dissimulé, à partager davantage de données. Si quelqu'un me braquait un projecteur rouge dans la gueule pour que je lui donne les photos de ma mère, de mon frère, de mon compagnon, de mon banquier, de mon ex, je parlerais de violence, peut-être, oui, de violence. Mais comme c'est mon téléphone, je parle de mise à jour. Et c'est là que je dis stop, parce que contrairement aux apparences, j'adore la technologie et j'aime m'en servir. Donc je cherche sur mon téléphone comment faire passer tout ça en monochrome pour ne plus voir ces couleurs atroces qui me poussent à balancer mes données. Et je ne trouve pas, et ce n'est pas étonnant que je ne trouve pas l'option monochrome, parce que la couleur parle au subconscient, la couleur est addictive, la couleur fait partie des stratégies de captation de l'attention. Donc je cherche sur les sites de geeks que je remercie au passage et je vais vous donner la solution parce que ce serait vraiment trop bête qu'en plus vous payiez un logiciel qui rend l'écran monochrome. Donc pour un Android, alors il paraît que pour un iPhone c'est un peu plus simple, pour un Android, alors soyez attentifs, vous allez sur paramètres, puis à propos du téléphone, puis état. Puis vous appuyez 7 fois, je ne blague pas, sur numéro de série. Les sites traduits de l'anglais parlent de numéro de build. Vous ne le trouverez pas. Il faut viser le numéro de série. Et la 7e fois, alors on se croirait dans Dune ou Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, la 7e fois, le passage s'ouvre, le dieu du téléphone vous reconnaît enfin comme son fidèle et fait apparaître une nouvelle ligne, dite option de développement, tout en bas des paramètres. Vous pourrez modifier les coloris à la rubrique accélération matérielle. Alors, bien caché, dites-vous, ça devrait être simple de rendre un écran monochrome ou bicolore, mais c'est compliqué, comme la sortie d'un labyrinthe, et c'est compliqué de choisir ses couleurs dans un monde gris. Donc la vraie mise à jour serait de rendre des couleurs à notre vie.
Isabelle Sorrent, c'était match, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Isabelle. Vous écoutez France Inter. Marion Bartoli est avec nous. Elle publie un livre qui s'intitule Renaître, paru chez Flammarion. Et on la retrouve tout de suite après cette musique choisie par Joubacca. Everyone does their thing a little bit differently. Everyone does their thing a little bit differently. Oh, every man does.
Alani, differently, sur France Inter.
C'est pas mal, moi j'ai
chaque
compris.
Chaque fois, vous me regardez.
Chaque fois, je regarde Mario Barté parce qu'elle speak fluently English.
Yes.
Mais évidemment, elle va commenter les matchs sur la BBC, c'est vous dire. Et sur Eurosport aussi. Mario Bartoli avec nous. Et à côté de vous, une Suisse.
Oui.
Suissesse, même
oui.
On peut dire, de la RTS. C'est notre Cri-Cri Gonzalez qui est de retour.
En ce vendredi saint qui marque le jour de la mort de Jésus, je vais tenter de joindre le Christ. Alors je sais que c'est pas facile, hein, mais j'ai bon espoir, c'est dans ma nature. Mais mes contacts dans l'au-delà m'ont donné d'ailleurs un téléphone pour le contacter.
Pour parler à Jésus-Christ notre sauveur, tapez 1. Pour les dons en faveur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, tapez 2. Pour prêter votre enfant à un prêtre, tapez 3.
Le 1.
Ne quittez pas, nous vous mettons en relation avec un opérateur de l'au-delà.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Louis de Funès ?
Oui.
Je voulais parler à Jésus.
Pourquoi ça ?
Ça vous regarde pas, ça.
Mais si ça me regarde !
Mais c'est vendredi saint, donc j'ai... C'était l'occasion pour moi de... Louis de Funès ? Mais vous en foutez de ce que je dis là. Hein.
Je ne m'en fous pas, figurez-vous !
Est-ce que vous pourriez me passer le Christ, s'il vous plaît ? J'avais tapé le 1 pour lui parler.
Triple andouille !
Louis de Funès.
Mais rien.
Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un d'autre, s'il vous plaît ?
Je transmets.
Pour parler à Jésus-Christ notre sauveur, tapez 1. Pour les dons en faveur d'Europe 1, tapez 2. Pour un mariage entre cousins, tapez Christine Boutin.
Le 1.
Ne quittez pas, nous vous mettons en relation avec une opératrice décédée.
Eh bien, vous n'imaginez pas mon bonheur d'être de retour devant un micro.
C'est Macha Béranger.
Eh bien voilà, ce sera moi. Quel est votre prénom ?
C'est Christine.
Céline ?
Non, Christine.
Ah, oh, pardon, j'entendais pas très bien. Marine ?
Non.
Bonsoir.
Christine, bonsoir.
Ça va ?
Oui, ça va. Oui.
Est-ce que nous nous sommes déjà parlé ?
Non, jamais, mais en fait, j'ai surtout besoin de parler au Christ.
Et on en a toujours très très besoin.
Oui, je peux lui parler maintenant ?
Vous êtes mignonne comme un cœur.
Oui, c'est possible ?
Oui.
Super, vous me le passez ?
Alors, vous allez laisser votre téléphone, on va le mettre sur le répondeur.
Non, 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 je vais lui parler tout de suite, en fait.
Compliqué.
Pour parler à Jésus-Christ notre sauveur, tapez 1. Pour inviter Ariel Dombal à chanter dans votre paroisse, pour aider les migrants, tapez-les.
Le 1.
Ne quittez pas, nous vous mettons en relation avec une opératrice décédée.
Oui.
C'est qui ?
Yalla.
Ah, ma sœur Emmanuelle.
Je suis là, ma bien-aimée.
Ma sœur, je galère un peu là. J'arrête pas de taper le 1 et ça...
Combien de fois ?
Là, ça fait 3 fois que j'ai tapé le 1.
Maman. Ouf.
Oui, je comprends pas, c'est assez compliqué.
Ah, et comment ? Et comment ? Mais c'est pas facile.
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Je crois que Dieu est amour.
Ah, donc vous pouvez me le passer directement ?
Oui.
Oui ?
Naturellement.
Vous allez être en relation avec Dieu dans quelques secondes.
Ça y est.
À partir de maintenant, il vous en coûtera 99 euros la minute. Le Seigneur est à vous dans 5, 4, 3, 2, 1.
Oui, madame.
Jésus-Christ, je vous dois range.
Pas une seconde. Pas une seconde, madame.
Attendez, c'est Emmanuel Macron ?
Mais oui !
Ah, mais... je m'attendais pas à ce que...
Qu'est-ce qui gêne ?
Non, enfin, je voulais simplement souhaiter une joyeuse crucifixion...
Merci.
...au Christ.
Merci du fond du cœur.
Dès à présent, cette liaison vous coûte 999 euros la minute. Pour que le Christ ne ressuscite pas lundi, tapez 1. Pour que le Christ augmente les APL, tapez 2. Pour que le Christ change d'apôtre, tapez 3.
Mais je sais pas quoi choisir, moi je...
Votre crédit est épuisé. Puisque vous n'avez pas choisi, vous gardez ce Christ jusqu'en 2022.
On aura essayé.
Christine Gonzalez, merci pour cette bonne tranche de rire. Mais je note que vous blasphémez un vendredi saint.
C'est pas beau.
C'est trop loin.
Très, très beau, ça.
Il faudra vous confesser un petit peu.
Ouais,
ça. 17h44 sur France Inter. Merci beaucoup, Christine Gonzalez. On revient avec Marion Bartoli, qui est notre invitée. Et parlons place aux jeunes, tiens, car dans le dernier carré des tournois de tennis, la saison des tournois européens vient juste de démarrer. Et pour une fois, il est impossible de dire quelles sont les joueuses et les joueurs qui sont susceptibles de les remporter.
Ah, les joueurs, on sait un peu quand même.
Ah, vous allez nous dire.
Un petit favori quand même.
C'est vrai.
Un petit espagnol gaucher qui a juste remporté bonsoir Roland-Garros.
Ah ouais,
même.
Ça va être lui, vous
tout
croyez
même.
Toujours en forme,
non, parce que la Croix.
Écoutez, pas trop mal.
La Croix nous définit les gagnants hégémoniques. Il y a des ados dans l'ombre qui frappent à la porte du top 10. Alors, chez les joueurs français.
Je savais pas que la Croix était spécialisée en tennis.
Chez les Français d'abord.
Un match très difficile. Pour toi, c'est une défaite amère, ce 16e de finale.
Défaite, c'est pas le mot, je veux dire. Bon, bien sûr, c'est dur à avaler. Enfin bon, ça remet pas en question ma carrière. Mais bon, faut être bon joueur.
À quel moment as-tu senti que la victoire t'échappait quand même en ligne?
Disons que moi, j'essaie de faire du beau tennis, tu vois. Oui. Bon, c'est sûr qu'au premier set, bon, 6-0, c'était un petit peu dur. Bon, après, le deuxième set.
Deuxième set, oui.
6-0, moi, j'ai senti un petit peu sur une perte de vitesse.
C'est vrai.
Bon, mais quand même, au troisième set, faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente.
Oui.
6-4.
6-0.
6-0.
6-0.
6-0, oui.
C'est sûr.
Karaoké. Donc,
chez les joueurs de tennis professionnels, c'est culte ce passage des
inconnus. C'est fantastique. C'est Henri Toubon, la chemise déchirée qui arrive devant Nelson Montfort, ou la réplique de Nelson Montfort et l'imitation de Björn Borg. Qui dit, oui, c'était un match très très difficile, Henri joue très très bien. Et, non, mais il finit par, je crois, il y avait une histoire de Yannick Noah avec, tiens, tu veux pas fumer parce que c'est celui de Yannick. C'est fantastique.
Donc c'est culte,
c'est
culte aussi chez vous.
Mythique.
Bah, écoutez, c'est un article de La Croix, je l'ai là en papier, qui est paru cette semaine, et qui dit, l'heure de la relève sonne sur le tennis. Une des explications du côté des hommes, c'est que Djokovic, Federer ou Nadal, maintenant, parfois, choisissent leur tournoi et s'économisent. Et donc, il y a d'autres tournois où il y a des jeunes qui peuvent peut-être émerger.
Non, je comprends le raisonnement, mais il faut quand même rappeler, je pense, aux auditeurs que les tournois les plus importants sont les tournois du Grand Chelem et qu'on ne peut pas dire qu'un jeune prend la relève tant qu'il n'a pas remporté un tournoi du Grand Chelem. C'est par contre le cas chez les filles, où Naomi Osaka a effectivement remporté deux tournois du Grand Chelem consécutifs, l'US Open l'année dernière en battant Serena Williams et cette année l'Open d'Australie avec une finale féminine absolument fantastique. Donc je pense que du côté féminin, effectivement...
C'est plus incertain côté féminin. Ça
oui,
va être plus
puis surtout du fait que Serena ait du mal à revenir après sa grossesse, ça laisse plus de place aux autres. Mais en revanche, Novak Djokovic a remporté quand même les trois derniers tournois du Grand Chelem. Rafael Nadal arrive comme l'immense favori sur terre battue. Et Roger Federer va tout tenter pour remporter Wimbledon. Donc oui, il y a Tsitsipas, oui, il y a Félix Auger-Aliassime, oui, il y a Denis Shapovalov. Mais il reste en retrait. Ouais. Et je les vois pas cette année remporter un tournoi du Grand Chelem, pour être clair.
Régulièrement, quand je regarde le tennis féminin, j'ai l'impression de découvrir des gens dont j'avais peu entendu parler ou des noms. Quand j'étais gamin, il y en avait quatre, c'était Graf, Sabatini, Céleste et Sanchez.
Oui.
Et donc, qu'est-ce qui est mieux pour le grand public d'avoir ces quatre-là qui se tirent la bourre ou justement d'avoir des surprises tout le temps, vous en tant que commentateur, qu'est-ce que vous préférez?
Commentatrice.
Oui, j'ai bien vu. Hein, j'ai bien vu que vous étiez une fille.
Pourtant, j'ai des longs cheveux quand même.
En tant que commentateur sportif.
Écoutez, je pense qu'on est arrivé à un point, il faudrait que ça stabilise un petit peu quand même. Et je pense que c'est pour ça que Naomi Osaka est autant poussée sur le plan médiatique. En plus, au Japon, c'est vraiment une star absolue. C'est la première garçon ou femme confondu a remporté un tournoi du Grand Chelem. Donc elle est vraiment extrêmement poussée médiatiquement. Ça serait bien.
Pour quelques icônes, quelques
jeunes. Voilà, ça serait bien que les gens puissent s'identifier à deux, trois noms. Alors après, malheureusement, pour le circuit féminin, effectivement, Serena a un peu plus de mal à revenir parce que l'histoire était absolument fantastique. Et si elle avait remporté un tournoi du Grand Chelem, ça aurait été un boom médiatique au-delà du sport. Parce que pour toutes les femmes qui sont enceintes, qui accouchent, de s'imaginer revenir au plus haut niveau d'un sport et arriver à gagner, c'est juste exceptionnel comme exploit. Mais là, je pense qu'il faudrait que ça stabilise. Il y en a assez des noms différents. Alors nous, les fans de tennis, effectivement, les Tchèques, les Roumaines, etc., on connaît. Pour le grand public, vous allez dans la rue, vous citez ces noms-là, on vous dit, mais elle fait quoi en fait ? Donc, il faudrait arriver à avoir des stars voilà, connues et que les gens puissent arriver à les suivre de façon permanente.
Vous coachez quelqu'un, Marion Bartoli ?
Alors, on m'a plusieurs fois proposé, en particulier, je pense que vous la connaissez, Yelena Ostapenko, qui a remporté Roland-Garros il y a 2 ans, qui est une grande copine aussi. Vu l'emploi du temps que j'ai, aujourd'hui, ça paraît très compliqué de voyager encore 30 semaines par an, parce qu'aujourd'hui, entraîner, c'est vraiment voyager 30 semaines par an. En revanche, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Mais je pense que ça sera possible peut-être dans 2 ou 3 ans,
ça
quand voilà, je pourrais mettre ma carrière peut-être de commentatrice un peu plus en retrait, mais
sur Eurosport,
j'ai vraiment
notamment
envie de le faire. Ouais.
Ouais. Marion Bartoli avec nous, et à côté de vous, c'est Juliette Arnoux pour un conseil lecture.
Et le conseil de lecture aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle Whisky. Et
je pensais que vous avez conseillé mon livre.
Non.
Bien joué.
Alors, très bien. Eh bien, je change de chronique.
Il y a des mentales, hein, ça. Joueuse.
Whisky. Bien, non, alors, non, mais alors, vous allez comprendre, c'est parce qu'en fait, moi, je me spécialise dans l'alcool. Ah. Et j'ai trouvé que dans Renaître, il n'y en avait pas des masses.
Effectivement.
Alors, forcément, je n'ai pas tout compris.
Je vous l'accorde.
Donc, j'ai pris ce livre qui s'appelle Whisky. Et je précise que je ne l'ai pas choisi parce qu'il s'appelle Whisky, d'autant que cette boisson n'est pas centrale dans le livre. C'est vrai que les personnages du livre passent du temps dans le bar d'Eddie le dingue et qu'ils ne sucent pas des glaçons. Mais comme souvent, l'alcool et ses excès ne sont pas la maladie, mais le symptôme. Encore une fois, ce n'est pas le titre qui m'a amené à ce livre, c'est que ce livre est le chaînon manquant entre mes deux passions, la Bible et PNL. La Genèse, plus précisément, c'est-à-dire le premier livre de la Bible, la base, somme toute, on en est au début, Adam et Ève ont 2 enfants, 2 frères, Caïn le cultivateur, Abel le berger, jusqu'ici tout va bien ici-bas. Et puis Dieu semble préférer Abel et ses offrandes, Caïn en conçoit un fort sentiment de somme, et tue Abel. C'est une vieille histoire, on n'est plus obligé d'y croire, mais ce fratricide originel marque toute l'histoire romanesque. Entendez par là, les écrivains n'ont cessé de raconter des frères non seulement un foutu de s'entendre, mais prêts, peu ou prou, à rejouer la scène sanglante. Qu'on fait par exemple à l'est d'Éden de John Steinbeck, où l'on suit notamment 2 frères, Caleb et Aaron, qui se déchirent pour l'amour de leur père, avec l'ombre malfaisante de leur mère, Kate, qui plane. Et Steinbeck prend son titre dans la Genèse, justement. La Genèse qui dit « Caïn se retira de devant l'Éternel et séjourna dans le pays de Nod, à l'est d'Éden ». Et là, Alex, de sursauter, mais enfin, qu'est-ce que PNL a à foutre là-dedans ? C'est que, voyez-vous, Alex, PNL, ce sont 2 frères. 2 frères dont le lien est un des thèmes centraux de leur œuvre, un lien indestructible, plus encore fondateur. Eux, et le souvenir de leur père et celui qui les a élevés, eux donc, face au monde. Comme les 2 frères, André et Smoker, du livre Whisky. Ce sont des enfants d'un couple dysfonctionnel, le père... Et je cite l'auteur, « Le père n'avait pas désiré sa femme comme un homme peut désirer une femme, mais comme certains veulent être dévorés par leur dieu. » Cette femme en question, la mère, Peg, splendide personnage extrêmement malfaisant, un genre d'animal, une Carmen au cube, avec dans les yeux, et je cite encore une fois l'auteur, une torche folle de pyromane. Les 2 frères ont donc grandi comme ça pouvait, leur lien leur servant de colonne vertébrale. Les 2 frères se choisissent d'abord l'un l'autre, du début à la fin, quelle que soit leur différence. Ce sont 2 frères indiens. André et Smoker, dans une Amérique blanche, qui même de nos jours pense, quand elle croise un Indien, « Je parie que t'es sous, je n'ai jamais vu un Indien à jeun. » Bruce Olbert, l'auteur, nous raconte dans Whisky la dernière épopée de ses 2 frères qui consiste à essayer de récupérer la gosse de Smoker que son ex-compagne a confiée à un genre de secte. Et peut-être que s'il mène aussi bien et d'aussi près son récit, Bruce Olbert, c'est parce que lui-même a eu un grand-père indien et assassin. Et je le précise parce que le rapport intime à la violence n'est pas exactement quelque chose qui s'invente de toutes pièces. André et Smoker le savent bien, ils sont les enfants de Peg, qui, si elle est un personnage romanesque fascinant, n'est pas exactement une mère de rêve. Mais quoi ? Qui a dit que mère était un métier de rêve ? Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci. Rappelez-nous les références du livre.
Alors, ça s'appelle Whisky. L'auteur s'appelle Bruce Holbert et c'est chez Gallmeister.
Très bien, merci Juliette Arnaud. Mario Bartoli avec nous. Vous, votre livre s'intitule Renaître, écrit avec Géraldine Maillet, paru chez Flammarion. Vous avez vos chouchous chez les joueurs et les joueuses?
Oui, bien sûr. Alors après, on essaye de rester impartial, en particulier à l'antenne.
Difficile, non?
Mais effectivement, bon, déjà forcément quand les joueurs et les joueuses françaises jouent. Bien sûr, mais bon, c'est impossible de ne pas.
Les sportifs français sont chauvins.
Sont chauvins.
Quelque chose qu'on n'a pas encore remarqué.
On a envie qu'ils gagnent.
Mais chez vous, c'est pas comme ça en Belgique.
Mais
non,
alors,
pas du tout. Non, pas du tout.
On est très objectif quand on dit que vous avez piqué notre Coupe du Monde. C'est très objectif. Exactement, c'est des faits.
Voilà. 60% de possession de balles, je le rappelle. Oui, pardon, Mario. C'est vrai, non?
Mais oui, mais une tête, voilà. Et voilà. Et ça a tout changé.
On s'en remettra jamais.
C'est temps de but marqué, hein, là. C'est vraiment une chose.
Mario Bartoli, vous avez de la chance, vous êtes venu un vendredi. Et le vendredi, il y a qui?
Il y a Frédéric Fromet derrière vous. Oui. Et il chante l'actualité. Bonsoir. Alors attention, je vous pose la question, mais j'ai quand même une idée. De quoi allez-vous nous chanter, Frédéric Fromet?
Oui, alors pardon, mais l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est quand même du pain béni.
Oh, vendredi saint, mon Dieu.
Il est fini le temps de la cathédrale. Si ça pouvait signifier aussi la fin des curés, est-ce que ça vaut quasi un deuil national sous les radios, les télés, avec Stéphane Bern pour chialer? Une simple histoire de combustion. Bordel de Dieu, on sort les violons. Genre la chute du mur de Berlin, c'est plus la chute de Christine Boutin. Un fait divers, certes très très chaud, qui montre bien que chez les cathos, il n'y a pas que la pédophilie, le focus est aussi l'incendie. Elle a cramé la cathédrale. Hélas, rien du côté de Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà Pinot Arnaud total oré, alignant les billets. Quand les pauvres peuvent toujours crever, c'est l'abattement, pas que pour les sous-sous. On pleurniche pour un tas de cailloux. Quand un chômeur s'immole par le feu, on n'est pas aussi malheureux. Dans cette hystérie à grande échelle, il y a quand même une bonne nouvelle. Sur Amazon, Victor Hugo, les trônes, Guillaume Musso. Elle a cramé la cathédrale. Pourquoi Dieu, s'il est sympa, a-t-il pu laisser faire ça? Laisser chanter Ariel Tombal. Pourquoi pas durant l'incendie? Elle aurait fait tomber la pluie. Je n'en peux plus de la cathédrale.
Merci, bon vendredi saint.
Flamandon vous embrasse.
Merci Frédéric Fromet. Oui. C'était donc la dernière émission.
Nous sommes en repos toute la semaine prochaine. Personne ne va répondre au téléphone. Voilà. Si vous avez à vous plaindre.
Voilà. Oui, toutes les plaintes, adressez-les à Laurence Bloch. Depuis qu'on a détrôné RTL, t'es très contente.
Pour vous
détendre,
lisez le livre.
Et comme ça, voilà. 17h57 sur France Inter. Merci Frédéric Fromet.
Merci.
Si c'est notre dernière émission, ça aurait été une belle émission. Vraiment, je vous remercie vraiment d'avoir été là à notre chevet. Elle a cramé l'émission, on l'appellera comme ça. Merci beaucoup. Mario Bartoli. Donc, je rappelle que vous allez bien sûr commenter tous les tournois à venir sur Eurosport et sur même 5 chaînes différentes. Si vous passez par l'Angleterre, vous pouvez entendre Mario Bartoli sur la BBC, par exemple. Oui. Et puis, votre livre intitulé Renaître est paru chez Flammarion.
Merci beaucoup, merci Isabelle Sorrente, merci Christine Gonzalez, merci Juliette Arnaud, merci Alex Vizorek.
Avec plaisir.
Vous aurez été une
c'est
équipe
5 années
formidable.
Avec vous. 5 années.
Frédéric Fromet, merci. On va remercier notre très très belle équipe hein, qui sera donc au chômage technique dès la semaine prochaine. À la préparation, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson, Ramzi avec un I Assadi et notre stagiaire Emma Ferré, alias Emma encore fait boire. À la réalisation, cette semaine, se seront succédés Anne-Sophie Ladonne et Céline Hilla. Merci à elles pour leur engagement pendant toutes ces années. Et à la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Maxime Ingrand. On était contents que ce soit vous pour cette belle dernière. Marion Bartoli, on va vous laisser le mot de la fin. À votre livre, Renaître, paru chez Flammarion, qui n'a pas été chroniqué par Juliette.
Je pensais que vous avez conseillé mon livre. À dire,
non, mais alors vous allez comprendre, c'est parce qu'en fait, moi, je me spécialise dans l'alcool. Ah. Et j'ai trouvé que dans Renaître, il n'y en avait pas des masses.